les meilleurs RVM.
Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce magazine dans lequel nous avons la joie de recevoir Monsieur Didier Valmy d'Herbois. Bonjour.
Bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Vie Meilleure.
Merci d'être avec nous. Vous faites partie du S10. D'une façon plus précise, vous êtes le commandant du S10. Donc, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut justement avoir déjà les précisions concernant ce qu'on appelle le S10?
Oui, alors c'est le service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe. Donc, en gros, ce qu'on appelle communément les pompiers de la Guadeloupe.
Très bien. Alors, quels sont vos différents objectifs dans le quotidien?
Alors, les missions du SDIS sont définies dans le Code général des collectivités territoriales. Nous avons une mission propre qui est la lutte contre l'incendie. Il n'y a que les pompiers qui font cette mission-là. Et puis, il y a des missions qu'on appelle des missions partagées. C'est tout ce qui est secours à personne, par exemple. Et là, nous ne faisons pas ces missions-là seuls. Nous avons d'autres partenaires comme le SAMU, les ambulances privées, la Croix-Rouge, d'autres associations, voilà.
Peut-on dire que la place du S10 est une place incontournable au sein de la société guadeloupéenne?
Oui, pas seulement au sein de la société guadeloupéenne, mais d'une manière générale en France. Car dès que quelqu'un a un problème, quand il ne sait pas où appeler, il appelle les pompiers. J'ai cité juste auparavant les missions de lutte contre l'incendie et de secours à personne, mais nous intervenons pour beaucoup d'autres types d'interventions. Les personnes qui sont blessées en montagne, les personnes qui sont en difficulté en mer avec d'autres organismes, tout ce qui est odeur suspecte. Voilà. D'une manière générale, quelqu'un, un enfant, une personne âgée qui est bloquée dans une maison. Quand on ne sait pas qui appeler, on appelle les pompiers. Donc, c'est une place prépondérante dans la société. Et ça en fait d'ailleurs l'un des métiers les plus appréciés des Guadeloupéens et de la population française d'une manière générale.
Est-ce qu'on peut rappeler le numéro à composer?
18 ou 112. Mm-hmm. 18 pompiers, 112, c'est le numéro européen pour tout ce qui est urgence.
Est-ce que vous êtes souvent sollicité ou est-ce qu'il y a une période précise où vous avez l'impression qu'il y a un pic?
Nous intervenons plus de 30 000 fois dans l'année. Alors, il y a des pics, c'est les jours fériés, veille de jours fériés, les longs week-ends, comme les week-ends de Pâques, les fêtes de fin d'année. Oui, ce sont. Mais après, les interventions ne préviennent pas et ça arrive à n'importe quel moment.
Et ce sont quels types d'incidents durant cette période de pics?
Alors, nous craignons, bon, à part les malaises que nous faisons régulièrement, ou lors des grands rassemblements, nous craignons souvent les accidents de la route. Il y a une grosse campagne de sensibilisation qui est faite à ce sujet, parce qu'en fait, nous n'avons pas les statistiques les meilleures. Donc, c'est ce que nous craignons. Et en plus de la sensibilisation, nous renforçons nos équipes pour répondre au mieux. Quand nous soupçonnons ces pics-là, nous renforçons nos équipes pour répondre au mieux aux sollicitations.
Avez-vous des chiffres à nous proposer ce matin?
Non, pas particulièrement, mais ce que je peux vous dire, c'est que le secours à personne, donc qui regroupe tout ce qui est malaise, tout ce qui est secours à personne, les accidents, ça représente plus de 80% d'activité des sapeurs-pompiers.
Donc vous intervenez plus sur...
Les missions partagées que les missions propres qui est l'incendie.
D'accord, très bien.
Et ça peut s'expliquer aussi parce qu'en fait, il y a ce qu'on ne voit pas chez les sapeurs-pompiers comme la prévention incendie. C'est grâce à elle qui fait qu'on a moins de feux maintenant. Voilà. Et c'est environ, nous sommes dans la moyenne nationale, 7% de feux. 7% de nos interventions sont consacrées au feu. C'est parce qu'en fait, il y a une bonne prévention qui est faite, qui fait qu'on a de moins en moins de feux.
Vous la faites où et comment cette prévention?
Mais partout. Elle peut être améliorée. Nous avons observé de bons résultats sur les établissements recevant du public, ce qu'on appelle communément les ERP. Il y a une réglementation, elle est suivie, nous visitons ces établissements-là. Quand il y a, par exemple, quand vous entrez dans une salle de cinéma ou n'importe quelle salle qui reçoit du public, vous ne faites pas attention à tout, mais le revêtement des sièges, le nombre de sorties, tout ça c'est calculé en fonction du nombre de personnes. C'est pour permettre l'évacuation rapide en cas de feu. Donc la prévention, c'est empêcher vraiment qu'il y ait un feu. Et si malgré tout il y a le feu, c'est permettre l'évacuation rapide du public.
Là, vous parliez de bâtiments recevant le public. Et chez le particulier, vous faites aussi de la prévention
Elle est moins contraignante et vous avez, c'est une bonne question. Nous ne faisons pas assez de prévention pour l'instant pour les habitations. Mais c'est dû aussi, en fait, de la réglementation. Parce qu'autant nous avons une réglementation qui nous impose de visiter les établissements recevant du public, autant sur les habitations, ça n'est pas obligatoire. Mais il y a des ouvertures qui se font dans ce sens-là. Ça pourrait faire l'objet d'une autre mission d'ailleurs sur tout ce qui est les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée. Et nous avons une bonne prévention à faire en la matière.
Très bien, j'ai déjà noté. Alors aujourd'hui, vous nous parlerez du risque cyclonique. Alors, c'est quoi un risque cyclonique ?
Les risques sont de différents ordres. Alors en fait, on parle de risque cyclonique pour tout ce qui est risque lié à un phénomène cyclonique. Alors, le phénomène cyclonique, bon, je ne suis pas météorologue, mais c'est une perturbation du temps et qui génère de forts vents, qui génère beaucoup de pluie. Et les risques liés à ça, c'est des inondations. C'est des toitures qui s'envolent en fonction de la vitesse du vent. C'est dégradation de l'environnement, des chutes d'arbres, voilà. Donc il y a pas mal de risques autour de ce phénomène cyclonique. Et justement, comme pour tout risque, il y a de la prévention qui est faite en amont.
Justement, commandant Valmy d'Herbois, alors OS10, comment vous faites pour sensibiliser la personne lambda concernant les risques cycloniques ?
Le risque cyclonique est assez connu de la population, contrairement au risque sismique que la population a du mal à appréhender. Mm-hmm. Nous profitons lors de nos réunions dans les établissements publics, ça peut être dans le cadre des rencontres avec les associations aussi, mais c'est surtout dans les établissements recevant du public, les écoles notamment. Nous profitons quand nous les sensibilisons sur la conduite à tenir en cas d'évacuation, de temps en temps, sur tous ces risques-là, risques cycloniques, risques et risques sismiques. Et notamment sur la partie prévention. La prévention, c'est vraiment prévenir avant que le phénomène n'arrive. Qu'est-ce qu'on doit faire ?
Alors, que doit-on faire justement avant l'événement ?
Alors, tout le monde s'organise, que ce soit la population, que ce soit les collectivités, que ce soit les organismes publics comme le SDIS. Pour ce qui est de la population doit se préparer. Elle a l'habitude, on parle de saison cyclonique. Statistiquement, elle est de mai à novembre, statistiquement. Mais on sait qu'il y a les plus fortes probabilités, c'est entre juillet, août, septembre, octobre. Et donc, elle a l'habitude de se préparer en réalisant un stock, de denrées alimentaires non périssables, de l'eau. Il y a des messages qui passent sur les médias en disant de nettoyer autour de sa maison, de vérifier les toitures, les chéneaux, de vérifier ses portes. Voilà, tout ça c'est en amont, c'est avant qu'il y ait un phénomène qui arrive. Quand le phénomène arrive justement, donc on a un code national, ce qu'on appelle vigilance. Et en fonction du code de la vigilance, la population... C'est ce qu'il y a à faire. Alors, cette vigilance, elle est rappelée en début de saison cyclonique par la météo, par les services de la préfecture. Et elle est rappelée surtout en début de saison, ce qui fait que normalement, en cours de saison, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Mais de toute façon, quand la vigilance, elle est citée, les services rappellent la conduite à tenir. Il y a deux types de vigilance. Il y a la vigilance classique météorologique. Là, on ne parle pas de phénomène cyclonique. On parle de... on peut avoir une vigilance pour mer forte ou alors pour forte pluie, ou alors pour inondation, pour submersion, pour ce qui concerne la Guadeloupe. Après, si on écoute la météo en métropole, on peut avoir des vigilances pour la neige, etc. Alors, quand on a une vigilance... alors, verte, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas de vigilance particulière. Et la vigilance jaune, c'est soyez attentif. Mais c'est précisé, on dit soyez attentif pour forte pluie, soyez attentif pour mer dangereuse, etc. Ensuite, orange, soyez très vigilant. Et quand c'est rouge, une vigilance absolue s'impose. Donc là, on est dans le cadre des vigilances hors cyclone. Maintenant, pour ce qui est des cyclones, alors on retrouve les couleurs vertes, il n'y a rien de particulier. Jaune, c'est soyez attentif aussi. Ça, c'est déclenché par le préfet 48 à 72 heures avant l'arrivée du phénomène. Ensuite, on parle de vigilance orange, ce qui veut dire préparez-vous. Et là, le préfet déclenche cette vigilance-là entre 24 à 36 heures avant l'arrivée du phénomène. Ensuite, on parle de vigilance rouge, protégez-vous. Et là, le préfet déclenche cette vigilance 12 à 6 heures avant l'arrivée du phénomène sur la Guadeloupe. Et enfin, quand on parle de vigilance violette, c'est confinez-vous, ne sortez pas. Il y a encore une autre vigilance, mais ça concerne surtout les secours. Grise, c'est quand c'est la sortie du confinement, c'est rester prudent, c'est on ne sort pas, on peut rester autour de sa maison, mais on ne sort pas, c'est pour permettre aux secours de s'organiser et d'intervenir sur le terrain.
Alors dites-nous, commandant, durant cette période, je prendrai la couleur violette, où on impose justement à la population à rester confinée, vous faites quoi? Vous et vos équipes.
Ah, les pompiers sont confinés aussi. En fait, les secours sont confinés.
Mm-hmm. Et vous restez attentif, on suppose, à toutes ces différentes personnes qui peuvent éventuellement appeler pour une intervention.
Pendant toute façon, toute la durée du phénomène, nous recevons les interventions, nous recevons des appels et nous les traitons en fonction de l'urgence. Alors, le préfet quand même rappelle, c'est pour ça qu'il y a des vigilances avant. Il y a d'autres couleurs avant le confinement. C'est pour permettre de prendre toutes dispositions pour éviter justement que quand on est en confinement pour éviter que les secours ne sortent. Au moment où le préfet annonce la vigilance violette, personne ne sort, y compris les services de secours. Alors ça peut arriver, mais nous étudions la situation. C'est arrivé pendant Hugo, pendant le confinement, pour que les sapeurs-pompiers sortent, pour des incendies qui se sont déclarés notamment à Carénage. Ça arrive aussi pour autre chose, mais bon, là en principe, il n'y a personne dehors, c'est pour des accidents imprévus. Par contre, ça peut être aussi pour autre chose. Et là, on a déjà des consignes claires. En amont, les gens doivent se protéger. Donc, ceux qui sont sur les bateaux, par exemple, doivent sortir. Ceux qui vivent dans les bateaux doivent sortir et se mettre à l'abri. Il y en a qui ne le font pas. Et quand ils ne peuvent plus résister, ben, ils appellent les secours et exposent les services de secours. C'est déjà arrivé pour qu'on ait des consignes parce que c'est trop dangereux. Il ne faut pas... On intervient, oui, mais il y a quand même des limites. Le but, c'est de sauver les gens, mais si le risque est trop élevé, on peut ne pas intervenir.
Alors, permettez qu'on entre dans l'antre même du S10. On aimerait savoir quel sentiment qui vous anime, justement, quand on vous demande, on vous impose de rester confiné et qu'en même temps, il y a quelqu'un qui crie au secours.
Nous sommes des secouristes dans l'âme. En fait, nous ne sommes pas insensibles à une demande de secours. Heureusement, la sensibilisation, elle est de mieux en mieux faite. Ça, c'est un point. Malheureusement, tout le monde n'est pas sensible à cette sensibilisation. Donc du coup, ça nous amène à ces situations-là où malgré le fait qu'on ait dit de se mettre à l'abri, il y en a qui ne le font pas et que pendant le confinement, ils appellent au secours. Pendant la phase de confinement, les pompiers ne partent pas d'eux-mêmes. Il faut une autorisation. Nous recevons l'appel. Nous transmettons, nous disons que nous avons reçu l'appel en préfecture. Nous analysons la situation. Si une reconnaissance peut être faite, on la fait. Si on peut intervenir, on intervient. Mais si c'est trop dangereux qu'on ne peut pas intervenir, on ne le fait pas. En revanche, comme je vous le disais, on est intervenu pendant Hugo pour un incendie. Là, on est obligé de le faire. Parce qu'en fait, les gens sont confinés chez eux. Si on n'intervient pas pour l'incendie, l'incendie continue et se propage. Donc ça, c'est quand même différent de quelqu'un qui s'est mis en difficulté dans son bateau et qui n'est pas sorti, qui ne s'est pas mis à l'abri alors qu'il pouvait le faire en amont. Mm-hmm. Là, le risque d'incendie, on le gère de façon différente parce qu'on sait très bien que si on ne l'arrête pas, il risque de se propager. Bon, c'est pas un incendie dans une maison isolée, mais dans des quartiers sensibles, Vieux-Bourg, Abîme, Carénage, les centres-villes d'une manière générale. Si on n'arrête pas l'incendie, il risque de se propager et on peut avoir beaucoup de victimes.
Quelles difficultés que vous pouvez rencontrer, vous, en tant que pompier?
C'est en amont, surtout. Mais là, on n'est pas seul. Parce que les collectivités ont un rôle à jouer aussi. Dans la phase de prévention, de préparation de la saison cyclonique, il y a des abris qui sont recensés, des abris sûrs. Il y a une liste de personnes à mettre à l'abri qui est établie aussi. Ça, c'est au niveau des communes.
Et c'est quel type de personnes?
Ça peut être des personnes grabataires, des personnes qui ont besoin d'aide et qui, mm-hmm. qui ne sont pas autonomes.
D'accord. Continue.
Et une fois que la liste est établie, elle est communiquée au SDIS aussi. Elle est établie par la commune, elle est communiquée au SDIS, mm-hmm. et au SAMU. Dès la phase de vigilance jaune, donc, qui nous demande d'être attentifs, nous consultons les listes. Car si le phénomène est avéré, et son passage est prévu sur le département, au moment de la vigilance orange, nous devons prendre des dispositions pour mettre ces personnes-là dans des abris sûrs ou dans des milieux adaptés, si c'est des personnes qui ont besoin de soins, par exemple.
D'accord. Donc là, on a fait le avant, c'était la prévention, le pendant, vous l'avez déjà dit, mais le après, comment
alors,
ça se passe
après, bon, tout dépend de...
L'événement, ah, bon, pour l'exemple, après Hugo, voilà.
Alors, pour, après un phénomène tel que Hugo,
ouais.
C'est-à-dire qu'on a eu quand même un phénomène de classe 4, donc avec des vents qui étaient supérieurs à 200 km/h, des vents soutenus, on imagine qu'il y a pas mal de dégâts. Ça veut dire qu'on a des routes qui sont coupées, donc on ne peut pas circuler. Les secours ne peuvent pas circuler. C'est pour ça que, au moment, juste avant le confinement, au moment de l'alerte rouge, les équipes de sapeurs-pompiers, le personnel rejoint son lieu de travail pour pouvoir intervenir parce qu'on sait qu'on ne pourra pas circuler après un phénomène tel que Hugo. Et là, en fait, on n'est pas seul. Nous avons des services communaux aussi avec nous. Nous intervenons en équipe et nous intervenons sur tout le territoire en équipe avec les moyens, ben, les moyens qui sont définis bien avant la saison, tout ce qui est scie, coutelas, etc., pour dégager les routes. Ça, c'est la priorité, dégager les routes pour permettre au secours d'arriver sur tous les lieux. Et puis, s'il y a des secours à effectuer, eh ben, nous les effectuons. D'ailleurs, c'est pour ça que ce n'est pas pour rien qu'on demande à la population d'avoir un stock. Il faut être indépendant pendant un certain temps avant que les secours n'arrivent. On parle de stock parce que les pompiers même peuvent être sinistrés aussi. Hein. Alors nos casernes sont sûres, oui certes, mais on ne connaît pas la violence du phénomène. On peut être sinistré, les pompiers peuvent être sinistrés chez eux aussi. C'est difficile pour un pompier d'intervenir alors qu'il ne sait pas ce qu'il y a eu chez lui. Alors avant d'être à la caserne, oui, on nous demande de mettre à l'abri nos familles. Mais quand le phénomène est passé, que les communications sont coupées, c'est très difficile humainement de demander à un agent d'intervenir alors qu'il ne sait pas comment et sa famille à ce moment-là. Et pourtant, il le fait.
Vous avez anticipé parce que j'allais dire que vous n'êtes pas des surhommes. On suppose bien que vous avez des peurs. Je suppose que c'est l'une de vos peurs, c'est ça?
Oui.
Hormis celle-là?
Oui, c'est surtout celle-là. C'est celle-là, c'est de savoir qu'on a des proches, on a des enfants, on a de la famille. Après un phénomène, on est en caserne. Comment est la famille? Alors que nous devons intervenir sur le terrain.
C'est ça.
Ça, c'est difficile, mais nous le faisons.
D'accord. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce métier?
Alors, certains par passion depuis le début. Il y en a qui avaient des parents dans la profession, donc qui ont côtoyé cette profession-là. Et certains sont intéressés par cette voie-là. D'autres comme moi, je n'avais pas de parents dans la profession. J'y suis rentré, mais par hasard. Mais toute personne qui, comme moi, rentre par hasard, une fois qu'on y a goûté, on y reste parce qu'en fait, on voit quand même une palette de la profession, mais c'est bien plus que ce qu'on voit. Je vous ai parlé de prévention tout à l'heure. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on fait de la prévention. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on fait des risques chimiques, risques radiologiques, le secours en montagne, etc. Les pompiers, c'est vaste.
C'est pour cela qu'on peut le dire que vous avez une place vraiment incontournable au sein de la population guadeloupéenne. Alors maintenant, j'aimerais savoir que vous aviez des conseils à proposer à toutes ces personnes qui vous écoutent. Ce serait quoi?
Alors, c'est de bien écouter les consignes qui sont données. Il y a des spots qui passent dans les médias. Il faut bien écouter les consignes. Ensuite, quand on parle de stock, donc on a parlé de stock de denrées alimentaires, mais il y a aussi la trousse de secours qu'il faut avoir à la maison. Une trousse de secours avec un minimum pansements pour soigner les petites plaies. Ensuite, des produits désinfectants, voilà. Mais aussi, tout ce qui est nécessaire en fonction des familles. On a des familles qui comportent des personnes asthmatiques. Et là, ça c'est important d'avoir au moins de la ventoline dans sa trousse de secours et de bien ranger la trousse de secours parce qu'en fait, quel que soit le risque, là on parle de risque cyclonique, mais quel que soit le risque, on sait que la trousse de secours est rangée à un endroit bien particulier. Même si demain, après le phénomène ou au cours du phénomène, la maison est fragilisée, la maison s'effondre, on a le temps de sortir, on sait où se situe cette trousse de secours. On pourra toujours aller la récupérer.
Commandant, juste une question. l'idéal du rangement, ce serait où, l'idéal?
C'est un endroit sûr, en fait. Il appartient aux propriétaires de faire le tour de leur maison et de se dire, si ma maison s'effondre, je pourrais aller récupérer un endroit. Personnellement, je ne la mettrais pas au milieu de la maison si elle s'effondre, mais je la mettrais à un coin, pas loin d'une porte, pour que si elle s'effondre, pour que j'ai pas de, ce ne soit pas trop difficile pour moi d'aller récupérer cette trousse.
Vous avez parlé de la trousse et du stock.
Pareil, il faut penser à renouveler ce stock-là. Je mettrai le stock quelque part donc, qu'il ne soit pas atteint par les nuisibles, de, si possible. Mais je mettrai ce stock-là à portée de main au cas où j'aurai des dégâts dans ma maison, que ce soit accessible. On ne dit pas que ce sera systématiquement accessible, mais je vais favoriser ça en plaçant que ce soit ma trousse ou mon stock, de façon à, même s'il y a un problème particulier, pour que je les récupère.
Le stock, ce serait quoi? Des produits secs?
Alors, on privilégie tout ce qui est biscuits secs, de l'eau, 60 litres environ par personne, des fruits secs aussi, et ça permet d'attendre en fait l'arrivée des renforts. Alors, on peut avoir des renforts extérieurs à la Guadeloupe, c'est pas forcément des pompiers, parce que je disais que les pompiers même peuvent être sinistrés, le personnel communal peut être sinistré aussi. Mais le temps d'avoir des renforts, si les îles proches comme la Martinique, si elle n'est pas atteinte, elle pourra venir en renfort. Mais ce n'est pas avant 8 heures. Et les renforts nationaux, donc ça, c'est bien après. Donc il faut être indépendant pendant un certain temps avant que les renforts n'arrivent. Je voulais faire un parallèle. Justement, en parlant de stock, c'est important. Parce qu'on parle de stock pour une période, pendant la période cyclonique. Mais il y a un risque qui n'a pas de saison, c'est le risque sismique. Alors le message que nous passons, c'est ce stock-là, en fait, il faut l'avoir pour nous qui sommes soumis à ces risques-là. Il faut l'avoir tout le temps. Et penser à le renouveler parce qu'il y a des dates de péremption, même si ce n'est que de l'eau et des produits secs.
Alors, mis à part ça, commandant, qu'est-ce que vous pourriez rajouter?
Oui, alors, on a parlé, donc je disais que les renforts nationaux ou même de l'île sœur de la Martinique prendront un certain temps pour arriver. Il faut être indépendant. Mais il faut être indépendant. Il ne suffit pas d'avoir une trousse de secours. Il faut encore connaître quelques bons gestes de premier secours. Et c'est pour cela, en dehors même de ces phénomènes, on suggère et on conseille fortement, c'est bien plus qu'une suggestion, on conseille fortement à la population de se former aux gestes de premier secours. C'est 10 heures de formation qui peuvent sauver une vie. Et il faut être indépendant pendant un certain temps, mais je sors du contexte risque cyclonique ou risque sismique. Je prends un exemple très simple. Vous êtes à Pointe-des-Châteaux ou à la Grande Vigie avec vos familles et vous avez un arrêt cardiaque. Et si vous appelez le secours, oui, il y a une ambulance qui va venir au bout de 15 minutes, 15-20 minutes. Mais ça, c'est si elle est disponible, parce qu'il y a une ambulance à Saint-François, mais elle peut être engagée. On va faire appel à Mornalo ou à Sainte-Anne, mais ces ambulances-là peuvent être engagées aussi sur d'autres secours. Et là, on va vous envoyer une ambulance. Mais après combien de temps? Ça peut être 20 minutes, 30 minutes. Et si au bout de 15 minutes, 20 minutes, vous n'avez rien fait, on diminue fortement les chances de rattraper la personne. Alors que si vous avez commencé à entamer un massage cardiaque, ben, on augmente fortement aussi les chances de ranimer la personne. Donc c'est pour ces raisons-là, au contexte cyclonique ou sismique, on conseille fortement à la population de se former aux gestes de premier secours. Ça peut servir pour les accidents de la route, ça peut servir pour
même
les
pour
accidents
les
domestiques, ça voilà. Peut servir ben, voilà, à tout moment de la vie.
J'imagine les auditeurs qui sont là à l'écoute, alors comment faire pour connaître les différentes dates de formation?
Il y en a toute l'année. Alors, il y a plusieurs organismes qui forment, donc les pompiers, il y a pas mal d'associations aussi. Les pompiers, donc, il faut venir en caserne et on vous... je prends la caserne des Abîmes qui forme, qui a une formation quasiment chaque semaine. Chaque semaine, il y a des formations.
Et les gens viennent?
Ah, bien sûr.
D'accord.
Il y a une forte demande aussi. D'accord. Il y a une forte demande, donc c'est pour ça que chaque semaine, elle organise des formations. Mais elles se font ailleurs aussi. Il y a des associations agréées sécurité civile qui, dont la liste peut être consultée en préfecture. Il y a pas mal d'associations qui forment au premier secours, aux préventions et secours civiques.
Voilà. Mais c'est une bonne chose, on voit quand même que la population guadeloupéenne est motivée, sensibilisée.
Oui, mais on voudrait que justement par rapport aux risques que nous avons quasiment tous les risques naturels
oui,
dans
tout
notre
à fait.
Département, à part le risque d'avalanche. Par rapport à notre situation, il vaudrait mieux que tout le monde soit formé. On ne demande pas que tout le monde ne sera pas infirmier ou pompier, mais au moins ces gestes de premier secours.
Il n'y a pas d'âge requis pour commencer à suivre cette formation des 10 heures. Même le petit de 11 ans, il peut aussi suivre.
Il y a des sensibilisations qui sont faites maintenant, même à l'école, pour les petits. Il n'y a pas d'âge minimum, mais comme nous délivrons, pour ceux qui vont s'inscrire sous cette formation, nous délivrons un diplôme. Donc il faut que ça soit un âge où l'enfant comprenne, va appliquer des gestes, etc.
D'accord.
Mais par contre, la sensibilisation, elle est faite et nous la faisons depuis l'école maternelle. Depuis l'école maternelle. Et ne serait-ce qu'appeler le 18. Quand on est en formation les 10 heures, on commence par ça. Protéger, alerter, secourir. Protéger, alerter. Donc alerter, c'est alerter les secours. Et on a déjà montré combien de fois un petit, mais à la maternelle, il a composé le 18 parce que sa maman ne répondait plus aux appels. Il a composé le 18 et il a sauvé sa maman. C'est déjà arrivé. Et en Guadeloupe. Donc c'est important, ne serait-ce que ça. On sensibilise les enfants, ne serait-ce qu'à composer le numéro 18. Et les opérateurs du 10, quand vous faites le 18, ça arrive au centre de traitement de l'alerte, qui est basé à la direction à Dotema. Eh ben, le personnel est très sensible à ça. Il y a des enfants effectivement qui s'amusent, c'est pour ça que nous disons aux gens de ne pas s'amuser avec le 18, aux enfants notamment, de ne pas s'amuser avec le 18 parce qu'il y a des enfants qui appellent vraiment pour des interventions réelles. Et là maintenant nous avons des outils qui nous permettent de localiser en fonction du lieu de l'appel, nous avons des outils qui nous permettent de localiser l'appel. Et ça c'est récent mais c'est avantageux pour nous aussi. Au cas où l'enfant n'arriverait pas à donner une adresse précise, mais nous pourrions au moins nous rapprocher. C'est vrai qu'on a parlé de la conduite à tenir de la population, mais les phases de vigilance jaune, orange, rouge sont valables pour les pompiers qui doivent s'organiser, sont valables pour les collectivités qui doivent s'organiser aussi. Et en fonction du code, le pompier sait ce qu'il a à faire. Par exemple, quand c'est la phase vigilance jaune, les agents doivent appeler leur centre d'affectation ou leur service pour savoir quelle conduite à tenir. Parce qu'en fait, bon, on n'accueille pas tout le personnel non plus. Il y a près de 1400 pompiers volontaires et un peu moins de 400 pompiers professionnels. Les 17 centres en dehors de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy que nous avons ne peuvent pas accueillir tout ce personnel. Donc bien sûr, il y a du personnel caserné et il y a du personnel à domicile aussi. Et donc ils appellent dès que la vigilance jaune pour connaître la conduite à tenir. Dès la vigilance orange, nous organisons des rotations pour permettre à ceux qui sont en caserne, parce que les casernes sont ouvertes 24 heures sur 24, au moment où on déclenche la vigilance orange, il y a du personnel en caserne, il faut les autoriser à sortir pour mettre à l'abri leur famille aussi, avant qu'ils ne reviennent. Donc on utilise le personnel de repos pour faire cette rotation-là. Et dès la vigilance rouge, tout le monde rejoint son lieu de travail. Et là, nous organisons les équipes, parce qu'il y a plusieurs équipes qui vont intervenir, avec les collectivités notamment. Il faut savoir aussi que nous mettons des pompiers dans tous les PC communaux. Chaque commune active son PC communal, le poste de commandement PC. Et nous mettons des pompiers aussi à disposition des communes pour, au moment de l'activation de son PC communal. Donc ces équipes-là sont constituées au moment de la vigilance rouge et au moment du violet, on attend que le phénomène passe.
Voilà, commandant Valmy d'Herbois, on vous laisse le mot de la fin.
Oui, alors, donc je dirais à la population d'être très attentive aux consignes qui sont passées lors des vigilances, qu'elles soient cycloniques, mais même en dehors, j'ai débuté l'émission par les vigilances météo classiques, pour forte pluie, pour mer dangereuse, de bien respecter les consignes qui sont données, parce qu'il y en a systématiquement, de bien préparer son stock. J'ai dit aussi qu'on parle de stock pour la saison cyclonique, mais nous sommes confrontés à un risque sismique qui n'a pas de saison. Donc il vaut mieux de se préparer pendant toute l'année en pensant à renouveler son stock, de se former aux gestes de premier secours. Ça, c'est important aussi, et ce n'est pas forcément pour les risques, mais c'est d'une manière générale, dans la vie courante, on peut en avoir besoin à tout moment. Vous pouvez, pour vous former, vous rendre vers le centre de secours le plus proche de votre domicile ou vous renseigner auprès de la préfecture qui vous donnera les listes des associations agréées sécurité civile qui sont à même de prodiguer ces formations. Ben, j'espère que je reviendrai ici pour vous parler des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée, qu'on appelle les détecteurs de fumée, qui sont obligatoires maintenant dans les habitations. Mais par contre, on ne sait pas forcément où les placer et comment les utiliser.
Voilà. Ben voilà, le rendez-vous est déjà pris. Merci à vous, commandant Valmy d'Herbois. On vous dit à très bientôt. Merci encore.
Merci. Radio Lumière.